France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Duel Natacha Polony, Gilles Finkelstein, et on va commencer avec ça.
Je veux votre part de vérité, vos indignations. On a commencé à améliorer les choses, mais on a encore, je vais pas vous mentir, beaucoup de boulot. Je continue comme ça, allez-y.
Je me lève parce que franchement, j'arrive pas à rester trop longtemps assise, faut que je bouge en fait.
Tu as fait remonter l'info comme quoi ne plus utiliser les autistes comme insulte. On arrête maintenant.
Vous avez eu le courage de parler de vous pour ce que vous vivez. Vous l'avez fait, ça, c'est de la politique. C'est le plus beau de la politique.
C'était le président de la République, jeudi, devant un millier de jeunes en Saône-et-Loire, une nouvelle étape du grand débat national. Et il faut se souvenir, il y a tout juste 2 mois que le président était en visite au Puy-en-Velay. On se souvient des gilets jaunes courant derrière sa voiture, les insultes, les cris de haine. Et le président peut aujourd'hui se consoler avec des sondages qui indiquent la hausse de sa popularité. Et un sondage IFOP que publie Marianne Natacha cette semaine, sondage qui a fait du bruit. Si l'élection présidentielle était demain. Si l'élection présidentielle était demain, eh bien Emmanuel Macron obtiendrait 30% des voix au premier tour. C'est 6 points de plus qu'en 2017. Et toujours dans ce sondage, la deuxième, Marine Le Pen, avec 27% des voix. Gilles.
Bon, d'abord, ça vous surprendra pas. Je commence par une réserve, ou même une double réserve sur ce sondage, à la fois sur son moment. On teste des candidats à une élection présidentielle et il n'y a ni candidat ni élection présidentielle. Et peut-être davantage encore sur le contenu, c'est-à-dire sur l'offre politique qui a été proposée, c'est-à-dire sur les candidats. On est un peu dans un remake de 2017 où on reprend une partie des candidats qui s'étaient déjà présentés, pour partie dans les candidats à l'élection du Parlement européen de mai prochain, pour partie avec des chefs de parti. Si on avait testé, par exemple, pour les partis de gouvernement, ou ceux que l'on appelait traditionnellement les partis de gouvernement, Bernard Cazeneuve d'un côté, Xavier Bertrand de l'autre, ou François Hollande et Nicolas Sarkozy, il aurait été intéressant de savoir si le score, et notamment le score d'Emmanuel Macron, aurait été le même. Donc, il y a ces éléments, mais qui sont très importants, parce que l'offre politique dans un sondage, a fortiori dans une élection présidentielle, c'est absolument déterminant. Vous vous souvenez que la semaine dernière, ici même, on avait commenté un autre sondage de l'IFOP pour les élections au Parlement européen, où pour la première fois avait été testée une liste qui regroupait les différentes listes potentielles de la gauche démocratique, de Benoît Hamon, en passant par Place Publique et le Parti Socialiste, et que la présentation de cette offre politique aboutissait à un score de 13% et la troisième liste. Donc, l'offre politique, c'est très important et on est déconnecté. Donc ça, c'était les réserves, mais malgré tout, il faut quand même regarder de près ce que dit, parce que ce sondage dit aussi des choses.
Alors faisons-le. Natacha, d'abord, pour répondre aux réserves.
Mais les réserves sont tout à fait admissibles, en effet. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire une photographie. Nous sommes bien d'accord qu'il n'y aura jamais une véritable élection présidentielle à un moment donné avec ces candidats-là. Le problème n'est pas là. Il s'agit d'essayer de mesurer les rapports de force actuels et la façon dont ils ont bougé depuis 2017. Et donc, ce qui nous frappe, c'est qu'en effet, si on regarde le premier tour, mais la tactique que suit Emmanuel Macron depuis son élection, à savoir c'est moi ou le chaos, quoi que vous pensiez de ma politique, quoi que vous pensiez de ma personne, de toute façon vous n'avez pas le choix, sinon c'est le Rassemblement National, ben visiblement ça marche. Ça marche, mais c'est une tactique. C'est-à-dire que ça marche à court terme. Parce que si on regarde le sondage de second tour, et c'est celui-là dans un sens qui est plus intéressant, eh bien là, on a une Marine Le Pen à 44%. 10 points de plus qu'en 2017. Et si on intègre le vote blanc, parce que c'est ça aussi qui nous intéressait en fait, c'est la question de mesurer ce que donnerait une comptabilisation du vote blanc. On atteint 19% de vote blanc en cas de second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Un Français sur 5 décide qu'il n'a pas à faire barrage à quoi que ce soit et qu'il s'extrait parce que tout cela ne lui plaît pas. C'est tout de même énorme, et ça, ensuite, ça implique une question dont nous avons parlé plusieurs fois ici, la question de la légitimité de celui qui est élu. Nous avons interrogé Jérémy Moilec, qui est un sociologue, et qui a cette distinction très intéressante. La différence entre la légitimité de l'homme, Emmanuel Macron est légitimement président de la République, c'est indéniable, mais il a été élu en tant qu'homme. En revanche, ça ne veut pas dire que son programme soit totalement légitime aux yeux des Français. Et cette distinction-là, je pense qu'il faut la réfléchir pour l'avenir de la démocratie.
Oui, c'est un sondage, en réalité, un sondage d'alerte. C'est un sondage d'alerte pour la démocratie. C'est le niveau des votes blancs, 10 points de plus qu'au second tour de l'élection présidentielle de 2017. C'est un sondage d'alerte parce que le score de Marine Le Pen, on dit qu'Emmanuel Macron progresse de 6 points, mais Marine Le Pen progresse elle aussi de 6 points en dépit de la campagne, en dépit du débat de l'entre-deux-tours.
Avec donc, un Nicolas Dupont-Aignan à 6%, ce qui fait que si on ajoute les deux, ça commence à faire beaucoup, beaucoup.
Absolument. Donc alerte pour la démocratie, alerte et même alerte rouge pour les partis de gouvernement, puisqu'on voit que aussi bien le parti, dans cette offre électorale-là, je le redis, mais aussi bien le candidat du Parti Socialiste que le candidat des Républicains, et même d'une certaine manière, davantage encore le candidat du Parti Républicain, puisque Laurent Wauquiez fait 12 points de moins que François Fillon.
Il est crédité de 8% dans ce premier tour fictif. Bon,
reste la question, et à mon avis c'est une question compliquée, de l'interprétation du score d'Emmanuel Macron. Parce que le paradoxe, c'est qu'on est dans un moment où il est à la fois, en même temps, renforcé et affaibli. Renforcé parce qu'il progresse, mais affaibli parce qu'il polarise contre lui. Là, toutes les enquêtes de popularité le montrent, 60, 70, 75% des Français. Donc il y a les deux phénomènes qui coexistent. On est typiquement dans cette situation, quand je me regarde, je me désole, je ne suis pas sûr qu'il se désole beaucoup, quand je me compare, je me console. Mais ça veut dire que...
Il peut se consoler, il gagne malgré tout dans ce scénario-là.
Oui, mais on n'est que dans du relatif. Alors évidemment, à un moment, l'élection, c'est du relatif. Et puis, il y a un autre élément qui n'a pas été souligné, c'est que le déséquilibre sociologique de ses soutiens est de plus en plus prononcé. Et notamment, il penche de plus en plus vers la droite. On le voit là, les sympathisants socialistes, on s'en souvient, avaient voté massivement, plus de 40% d'entre eux, pour Emmanuel Macron, ils ne sont plus que 10%. Les sympathisants républicains avaient très peu voté pour Emmanuel Macron, 10%. Ils sont aujourd'hui 40%. Donc ce déséquilibre, on le voit, ça laisse un espace qui est très ouvert et une situation qui est beaucoup plus fluide que ce sondage pourrait laisser penser.
Natacha ?
Oui, je suis d'accord. La situation est extrêmement flottante, extrêmement fluide. On ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Ce qui est frappant, c'est tout de même de voir aussi l'effondrement de Jean-Luc Mélenchon et l'échec pour l'instant de sa démarche. Simplement, en effet, c'est un sondage d'alerte. Nous avons titré l'électrochoc, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que je pense que ce que nous raconte ce sondage, c'est la fracturation du pays. On va en parler tout à l'heure avec notre invité.
Mais
la question du peuple, la question de savoir ce que nous sommes en tant que peuple se pose plus que jamais.
On va en parler évidemment avec lui tout à l'heure, mais il faut quand même rappeler, et j'insiste dessus, il y a 2 mois, c'était le puits en Velay, et certains disaient que la République vacillait. On s'aperçoit que 2 mois après, le président de la République a retourné la situation d'une certaine manière, qu'il construit une autre histoire. Les Gilets jaunes n'occupent plus la totalité de l'espace médiatique, et lui a des opinions plutôt favorables.
Non, il n'a pas du tout. Non, Ali, il n'a pas du tout des opinions favorable. Il est remonté du fond où il était. Mais
j'avais une vision optimiste.
Oui, vous avez une vision qui est trop optimiste. En revanche, là où vous avez raison, c'est que le grand débat a ouvert une nouvelle phase dans ce conflit. Et que, ce faisant, l'actualité est beaucoup moins polarisée sur les Gilets jaunes, beaucoup plus sur le grand débat. Et comme le grand débat, pour une grande partie, c'est Emmanuel Macron, il y a cet effet. Mais la question est de savoir après comment on en sort.
Oui, le grand débat, c'est surtout une formidable opération de communication de campagne d'Emmanuel Macron. Ça se voit, c'est bien fait. C'est bien fait et ça marche. Et il est très très bon, on entendait tout à l'heure les extraits, il est très bon en prédicateur. C'est là qu'il se sent le mieux.
Ouais, ce n'est pas que ça, c'est beaucoup ça et c'est beaucoup ce qu'on voit. Mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas. Il y a quand même des milliers et des milliers de débats qui sont organisés dans les mairies, dans les associations. Et il y a des centaines de milliers de contributions de citoyens sur le site internet. Donc, c'est
non, mais ça,
on
nous
voit
sommes bien d'accord.
Macron, mais il n'y a
c'est
pas que...
C'est ce qu'il en restera.
D'un mot, puisque le CSA est saisi de la question, comment compter ces heures d'antenne où l'on voit, où l'on entend le président de la République pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures en direct sur les chaînes d'info continue, Natacha ?
Mais vous voyez bien à quel point tout cela est absolument inextricable. On le voit à chaque élection. Les règles du CSA sont extrêmement complexes, de plus en plus lourdes, et elles ne remplissent absolument pas leur rôle d'équité démocratique. Mais là, c'est pire que tout. En effet, on est dans un entre-deux où il s'agit de faire campagne de la part du président. Il s'agit d'aller prêcher. Bon, c'est d'une injustice totale pour l'ensemble des autres forces politiques, mais pour Pour autant, personne n'imagine que le CSA va nous expliquer que c'est comptabilisé comme des heures de parole politique, évidemment.
Gilles, ce serait effectivement surprenant, d'autant que, de manière générale, le président de la République est toujours comptabilisé à part, a fortiori, dans ce moment-là.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Alors, à part, je suis du dingue. Le patron, hier soir, il m'envoie un message. Il dit, tu vas aller bouffer. T'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi.
Donc le patron nous soutient?
Ah bah, il fait plus que nous soutenir. Non, il a dit, je me suis senti trahi, j'ai été déçu. Il y a eu la trahison, il y a eu la déception sur le 1er mai. Ça remet en aucun cas en cause la confiance que je peux leur porter, enfin, je peux lui porter par les mains, en l'occurrence, tu vois. Que je peux lui porter sur machin. Il l'a redit encore, et je suis fier d'avoir un mouché Alexandre Benalla à mon cabinet. Sur le reste, la justice, elle fera son travail. Quand j'entends les conneries qui ont été dites, machin, etc., il est comme un fou. Il m'a dit, tu vas les bouffer. T'es plus fort qu'eux. C'est énorme.
Extrait de la conversation enregistrée entre Alexandre Benalla et l'ancien salarié de La République En Marche, Vincent Crase. Enregistrement révélé par le site Mediapart et rebondissement cette semaine dans ce feuilleton. Une histoire qui n'en finit pas, il faudrait peut-être même dire les histoires, puisqu'il y a l'histoire des enregistrements, celle des violences du 1er mai, l'histoire des passeports, l'histoire maintenant d'un contrat avec un oligarque russe proche de la mafia. Et cette semaine, une tentative de perquisition à Mediapart. Matignon qui reconnaît avoir transmis des informations au parquet. La chef de la sécurité de Matignon qui est contrainte de quitter son poste. Vous n'étiez pas très intéressé l'un et l'autre par l'affaire Benalla. Affaire d'été, affaire d'État. Maintenant, il n'y a plus de débat. Gilles.
Comme le dit Alexandre Benalla, c'est énorme. Ça, effectivement, c'est énorme. Je ne suis pas très intéressé par le personnage Benalla. En ce sens qu'il est assez typique de ces personnages interlopes qui gravitent dans le monde politique depuis de très nombreuses années, avec à la fois leur faiblesse, aller à la limite, parfois au-delà de la limite, peu regardant sur les méthodes, peu regardant parfois sur les finalités, fanfaron, avec aussi, c'est ça qui peut être intéressant, leur force, parce qu'ils détonnent dans un paysage politique qui est souvent assez terne et assez uniforme. En revanche, au-delà du personnage Benalla, ce qui est, je crois, intéressant, ce sont le cumul des dysfonctionnements que cette histoire a engendré ou a révélé. Des pouvoirs publics, la manière dont le président et la majorité ont réagi à cette affaire au mois de juillet, de l'administration, quand on regarde comment il y a eu cette tergiversation pour récupérer les passeports, peut-être de la justice avec la perquisition chez Mediapart cette semaine. Et puis beaucoup d'interrogations. Vous avez soulevé la dimension russe, les écoutes malgré tout. Comment ces enregistrements ont-ils été faits? Par qui? Pourquoi? On n'en a pas fini, malgré nous, avec l'affaire Benalla.
Natacha.
Non, bien entendu, je ne dirais pas autre chose. C'est-à-dire que, alors, il y a la question du journalisme d'investigation. En effet, qui a eu intérêt à envoyer ces enregistrements à Mediapart? Parce que le journalisme d'investigation, c'est ça, c'est recevoir des enregistrements d'une bonne âme qui a décidé qu'on allait flinguer un tel ou un tel. Et gardons aussi à l'esprit une chose. Quand on entend Alexandre Benalla parler là et dire « le patron m'a dit ça », nous n'avons pas la preuve que c'est réellement ce qu'Emmanuel Macron lui aurait dit. Il faut garder aussi un tout petit peu de recul sur les fanfaronnades de ce personnage.
Beaucoup,
en revanche...
Beaucoup.
Beaucoup de recul.
Beaucoup de recul.
Alors, sur la... tu vas aller bouffer ça, j'attends s'il l'a dit par SMS, puisque c'est ce qu'il est censé avoir dit.
Oui, on attend de les trouver, les SMS, on attend de les voir. Bien entendu. Mais une fois qu'on a dit cela, en effet, il y a quand même quelque chose d'absolument effarant. D'abord, avoir donc une violation d'un contrôle judiciaire de façon absolument flagrante, tout de même. Ce qui signifie que enfin, si la justice était aussi réactive que dans d'autres cas, ça devrait normalement donner lieu à une incarcération. Là, tout à coup, on ne sait pas pourquoi, c'est beaucoup moins rapide que quand il s'agit d'arrêter des manifestants. Mais surtout... on s'interroge sur le recrutement de toutes ces forces de sécurité. Maintenant, c'est plus seulement l'Élysée, c'est Matignon. Ce sont des personnages qui sont visiblement totalement au-dessus des lois, des règles. Pardon, mais on a un énorme problème là de recrutement, de réflexion sur ce qu'est le sens de la République.
Mais pour faire le lien avec le sujet précédent, ce qui était frappant, c'est qu'on disait que le président de la République avait décroché dans les sondages au moment de l'affaire Benalla, donc au mois de juillet dernier. Là, il semble remonter dans les études d'opinion malgré l'affaire Benalla.
Oui, je crois qu'elle n'a malgré tout plus la même incandescence que
non
qu'à ce moment-là. En tout cas, jusqu'à récemment, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait être prudent sur les déclarations de Benalla s'agissant des SMS qu'il aurait reçus du président de la République. Je crois qu'il faut être prudent aussi sur la chef du service de sécurité du Premier ministre, qui n'est pour l'instant impliquée que par ricochet, par l'intermédiaire de son compagnon. Et donc, là aussi, soyons prudents. En revanche, violation du contrôle judiciaire, ça c'est manifeste, et violation aussi des déclarations qu'il a pu faire devant la commission d'enquête qui fait sous serment.
Une fois de plus, il y a tout de même, en effet, présomption de mensonge sous serment. Enfin, curieusement, alors que cette affaire devient de plus en plus ahurissante et de plus en plus grave, il y a une forme de lassitude, visiblement, de l'opinion. Bon, tant mieux pour Emmanuel Macron, mais je ne crois pas que la République en sorte grandie.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Et dans l'actualité aussi, les relations tendues, l'absence de relations, le divorce peut-être, je ne sais pas comment appeler ça, entre la France et l'Italie. Jeudi dernier, la France rappelait son ambassadeur en Italie, accusation répétée, accusation outrancière de la part de Rome, déclarait le Quai d'Orsay, puisque mercredi, le Quai d'Orsay réagissait vivement après la rencontre entre le vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, qui est aussi le chef du mouvement 5 étoiles, et des Gilets jaunes. Une situation qu'on dit jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale, Natacha.
Je pense que c'est surtout l'aboutissement d'un processus. Et évidemment qu'il est inadmissible qu'un gouvernement vienne soutenir des opposants à un gouvernement allié, ami, bien sûr. Et tout cela n'est qu'une instrumentalisation. Simplement, il faut replacer ça dans l'histoire récente des rapports entre la France et l'Italie. Souvenons-nous quand même de 2011 et de la façon dont Silvio Berlusconi a été prié de s'en aller par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Enfin, il y a eu une pression extrêmement forte. Ensuite, nous avons tout de même l'affaire libyenne où l'Italie est totalement laissée de côté, par la France notamment, qui estime que bon, bah, on peut se passer de ses alliés qui pourtant sont les premiers concernés. La preuve qu'ils sont les premiers concernés, c'est qu'ils sont les premiers à subir la crise migratoire qui va suivre, que là aussi, on les laisse se débrouiller. Il y a une espèce de tradition du mépris pour nos voisins italiens qui finit à un moment par se voir. Et ça se termine avec la phrase d'Emmanuel Macron l'an dernier sur la lèpre qui monte, qui gagne en Europe et qui visait non seulement Viktor Orban, etc., mais expressément nos voisins italiens. Alors, quoi qu'on pense du gouvernement italien, le gouvernement français est censé faire de la politique et de la diplomatie, pas de la morale. Donc, je pense qu'il y a une réponse aujourd'hui du berger à la bergère. Elle est grave, mais il faut bien comprendre que tout ça se joue dans un contexte où il s'agit pour les uns et les autres de se positionner comme soit les vrais patriotes contre les méchants mondialistes, soit de l'autre côté, les progressistes contre les nationalistes.
Gilles.
Oui, c'est la crise la plus profonde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Même s'il y a eu des épisodes de tension, Natacha en a rappelé quelques-uns qui étaient récents, il y en avait eu d'autres du temps du général de Gaulle ou même du temps de Silvio Berlusconi, mais c'est la crise la plus profonde. Le problème, c'est que d'un affrontement à la fois personnel et politique, on passe à un affrontement de plus en plus étatique et même national. L'affrontement personnel ou politique, et moi évidemment je ne renvoie pas dos à dos l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'entre Emmanuel Macron et Matteo Salvini, mon choix est vite fait.
Une réponse du berger à la bergère, disait Natacha.
Mais il y a de fait une instrumentalisation réciproque, la recherche de boucs émissaires des deux côtés. Du côté d'Emmanuel Macron, Natacha vient de le rappeler, du côté des dirigeants italiens également, et il y a même une surenchère, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la surenchère traditionnelle des populistes, dont le style est la violence, dont la méthode est la provocation. Donc, provocation pour provocation, les populistes sont toujours les plus forts, et il y a une surenchère dans la surenchère entre Matteo Salvini et Luigi Di Maio, qui sont en concurrence évidemment pour les élections au Parlement européen qui viennent, qui sont l'un et l'autre à la recherche d'un ennemi, cet ennemi, c'est la France, c'est Emmanuel Macron. Donc affrontement politique, affrontement personnel, mais de plus en plus affrontement d'État. Pour la première fois, il n'y a pas eu de sommet bilatéral entre la France et l'Italie l'année dernière, et surtout, et c'est ça le plus inquiétant, un affrontement de plus en plus national avec un sentiment anti-français qui gagne beaucoup en Italie, dont un certain nombre de causes ont été évoquées par Natacha. Et je termine d'un mot, je crois que le problème de l'Italie, en réalité, n'est pas tellement la France, que le problème de l'Italie, c'est l'Europe, c'est le monde, et c'est la faiblesse dans laquelle elle se trouve. Elle pèse de moins en moins, elle connaît un déclin à la fois démographique et économique absolument dramatique. Et on disait traditionnellement, enfin Cocteau disait, les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Aujourd'hui, les Italiens sont des Français de mauvaise humeur.
Et c'est assez dramatique. Natacha, est-ce que ça vous choque que Luigi Di Maio rencontre des gilets jaunes ?
Mais ce n'est pas que ça me choque. Je vois l'instrumentalisation politique. Simplement,
sa part ?
Oui, bien sûr. Mais ce qui me semble extrêmement dommageable, c'est que nous sommes au sein d'une Union européenne dans laquelle l'Italie est un des membres fondateurs et qui l'Italie devrait être un partenaire de la France. Nous voyons très bien aujourd'hui comment l'Union européenne est en train de s'organiser autour de l'Allemagne comme pôle central. La France aurait besoin, au contraire, de rééquilibrer pour pouvoir mener la politique qui est censée être celle d'Emmanuel Macron, d'une réforme de l'Europe. Il a besoin d'alliés pour ça. Or, l'Allemagne n'en est pas un. On le voit à chaque fois, il n'a obtenu que des fins de non-recevoir. Donc, se positionner comme le protecteur du monde libre face aux populistes est, à mon avis, une erreur. C'est-à-dire que petit à petit, on creuse le fossé au lieu de se donner les moyens de construire une Union européenne qui défende les citoyens de tous les pays européens.
Et justement, l'Union européenne en question avec ce qui suit.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Cette semaine aussi, veto de la Commission européenne à la fusion entre Alstom et Siemens, des réactions politiques d'une rare violence. Et devant l'Assemblée nationale, c'était mercredi, le Premier ministre critiquait cette décision de la Commission.
Monsieur le député, vous m'interrogez sur la décision prise aujourd'hui par la Commission et qui a rejeté le projet de fusion porté par Alstom et Siemens. Vous savez que j'essaie en général d'avoir un propos mesuré, mais je vais répondre, je crois, clairement à votre question. La décision de la Commission est une mauvaise décision. C'est un mauvais coup à l'industrie européenne et elle me semble avoir été prise sur de mauvais fondements. Je ne peux pas être plus clair.
Édouard Philippe chaleureusement applaudit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas prolonger sa phrase par ces mots « on n'a finalement que nos yeux pour pleurer » Gilles ?
Il y a un consensus, hors Marine Le Pen.
Hors Marine Le Pen.
Gauche et droite confondues, pro et anti-européens confondus, sur la Commission. Donc simplement pour le plaisir du débat, je vais essayer de prendre quand même une minute pour essayer de comprendre quelle a été la logique. Parce que c'est une décision exceptionnelle, en sens que c'est une décision très rare. Sur les 10 dernières années, 3000 cas examinés de fusion par la Commission, on est à moins de 10 refus. C'est une décision qui est attendue. Pour ceux qui suivent le dossier depuis des mois, il y avait deux sujets qui étaient des sujets sur lesquels la Commission considérait qu'il y avait un problème, la question des signalisations et des trains à grande vitesse. Sur ces deux sujets, Alstom et Siemens n'ont pas voulu apporter de réponse, c'est-à-dire n'ont pas proposé de cession substantielle qui permettait de modifier la situation. Et enfin, c'est une décision qui est argumentée. Si on écoute ce que dit la Commission, il faut écouter. Ils disent des choses simples. Ils disent la concurrence serait faussée dans ces deux secteurs-là parce que Alstom et Siemens, qui sont déjà deux géants, auraient à eux seuls trois fois plus de parts de marché que leurs successeurs. Que ce faisant, les consommateurs, en l'occurrence ce sont les clients industriels et les États, serait lésé et que la concurrence de la Chine dont on parle beaucoup n'est aujourd'hui pas une réalité dans la mesure où le mastodonte chinois fait 90% de ses activités en Chine et que jusqu'à présent ils n'ont même pas postulé à un appel d'offres européen. Donc ces arguments-là sont des arguments qui sont qui doivent être entendus.
Vous êtes vraiment bon avocat. On a l'impression Éric Dupond-Moretti, on va vous appeler acquittateur.
Alors le problème, c'est que si ces arguments sont intéressants, je pense qu'il soulignent un point. C'est que l'Union européenne C'est vrai dans ce secteur-là, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres, ne juge que par rapport à elle-même. Et que le problème, c'est qu'il faut qu'elle fasse cette mue, qu'elle regarde par rapport aux autres. Et trop souvent, elle ne le fait pas. Elle ne l'a pas fait sur la question des frontières. On en a parlé plusieurs fois. Très forte sur les frontières intérieures de l'espace Schengen, très faible sur les frontières extérieures. Elle l'a peu fait sur l'euro, très forte sur la stabilité de l'euro, plus faible. Et on a parlé aussi sur l'Iran, sur la monnaie dans sa dimension internationale. Et c'est exactement pareil sur la concurrence. Elle juge la concurrence pour l'essentiel par rapport à elle-même, par rapport à l'Europe et pas assez par rapport au reste du monde.
Tout Natacha. Simplement parce que nous avons affaire à des gens qui sont des techniciens, voire des technocrates, qui connaissent parfaitement leurs règles, mais qui ne sont pas des politiques. Parce que là, on est dans l'ordre du politique. L'industrie doit faire l'objet d'une véritable pensée à long terme. Et c'est ça que l'Union européenne n'est pas capable de faire. Pour l'instant, bien sûr, le concurrent chinois est très loin. Mais qui imaginait, il y a 5 ou 10 ans, que Huawei en serait là où il en est? Donc, cette anticipation n'existe pas dans l'Union européenne. Deuxième point, il est vrai que Alstom passait de fait sous le contrôle de Siemens. Ça, c'était une évidence, c'était pas un mariage équitable, pas du tout. Simplement, là aussi, on peut s'interroger sur le rôle de l'État français qui n'a pas voulu envisager, par exemple, l'option Alstom-Thales, qui aurait été intéressante parce que ça évitait cette question de la concurrence vue par l'Union européenne. Donc, il y avait d'autres possibilités de penser une politique à long terme. À tous les échelons, ça n'est pas fait, ni à l'échelon français, ni à l'échelon européen.
Oui, d'un mot, Gilles. D'un mot, je ne partage pas totalement ce que dit Natacha sur l'opposition entre les techniciens et les politiques. Le problème, je crois, n'est pas celui-là, c'est quelles sont les règles qui sont adoptées. Et je crois que, si je le dis d'un mot, l'enjeu, c'est que la Commission et des règles qui lui permettent de voir plus loin dans l'espace, c'est-à-dire pas regarder, je l'ai dit, seulement l'Europe, mais le reste du monde, et plus loin dans le temps, regarder pas seulement la concurrence d'aujourd'hui, mais aussi la concurrence potentielle, et peut-être ne pas être seulement sur des règles juridiques de concurrence, mais aussi sur des règles sur des critères industriels, sur des critères sociaux, l'emploi, voire sur des critères environnementaux.
On va en rester là et on aura évidemment l'occasion de reparler de l'Europe et de l'Union européenne. Le grand face-à-face continue avec le débat.